Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre cabinet de curiosité. On est là pour 2 heures d'histoire. Salut cher Thomas.
Comment ça va?
Très bien.
Bon, moi aussi, pleine forme. Salut à vous les curieux au programme. Un champion, Guillaume Néry, il fait partie d'un club très fermé, celui des humains qui ont plongé à plus de 100 mètres de profondeur. Il a d'ailleurs failli y perdre la vie. Il sera notre invité, il nous racontera.
Et on va prendre la route avec l'ami Francis Zégut pour fêter ses 40 ans de radio. Il nous a préparé une compile mythique, Hit the Road by Zégut. 4 CD, 66 titres. 66, vous l'avez compris, comme cette mythique route qui traverse les États-Unis et que l'on va dévaler au son, Thomas, de ses chansons préférées. Quel régal. Et tout de suite, on explore la possibilité du Nil.
RTL. C'est donc ici, dans cet archipel du bout du monde, austère et tourmenté, aux côtes inaccessibles, que Jacques Brel avait choisi d'enfin jouer relâche. Fouillant le monde, déçu, fatigué, malade, Brel avait jeté l'ancre dans la baie de Tahoku, à Ivaoa. C'était en 1975.
Le temps s'immobilise.
La curiosité est un vilain défaut.
Au maraquis.
Brel s'était pris d'amour pour ses paysages sévères et hostiles, ses roches de basalte sorties de la surface des eaux, empoussées de laves successives, il y a plus d'un million d'années.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Au maraquis.
Comme Jacques Brel l'a fait, partir sur une île déserte dans les vents glacés de la Manche ou au milieu du Pacifique, partir et peut-être ne pas revenir. On a tous fait ce rêve, d'autres l'ont vraiment réalisé. Bonsoir Yves Jéglet.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le chef adjoint du service culture du Parisien et pour le Parisien Magazine, vous avez voyagé, vous racontez de très belles histoires, c'est en partenariat avec RTL, sur ces personnalités qui ont tenter cette possibilité du Nil. J'ai piqué l'expression, évidemment, cette très jolie expression à l'écrivain Michel Houellebecq. C'est une exposition qui vous a donné l'idée de ce voyage?
Oui, c'est une exposition et un voyage, puisque le Quai Branly, dans quelques jours, consacre une exposition aux îles Marquises, qui est un nom magique. Et à cette occasion...
En Polynésie française, donc.
Voilà, mais tout au bout. C'est-à-dire que même une fois qu'on est à Tahiti, c'est encore... très très loin. Là-bas, ils disent que c'est aussi loin que la Suède par rapport à Paris, les Marquises par rapport à Tahiti. Donc c'est encore un autre monde et c'est un monde merveilleux.
Les îles Marquises en Polynésie française qui ont fasciné Jacques Brel, mais il n'y est pas arrivé tout de suite sur ces îles. Il a fallu en quelque sorte les mériter.
Oui,
Commence par les Canaries.
Il commence par les Canaries et là il a une très mauvaise surprise puisqu'il partait pour un tour du monde en bateau et aux Canaries il escalade un volcan, enfin une marche. Il a un problème de souffle, il se sent pas bien, il revient, il fait des examens et là il découvre qu'il a un cancer et 3 ans après il sera plus là.
Et donc ce voyage, donc là on est aux Canaries, comment va-t-il arriver aux Marquises? Il passe par où?
Alors d'abord il revient se faire soigner et après il traverse l'Atlantique, il s'arrête aux Antilles puisque sa compagne Madly, qui joue un rôle très important, il y a sa fille aussi qui est là, est antillaise, donc il s'arrête aux Antilles, il cabote puis il s'entraîne un petit peu, il est déjà malade, hein, il est fatigué mais il veut tout faire, il a repris des études de skipper, c'était vraiment quelqu'un d'incroyable, moi j'ai découvert cette partie de sa vie et donc à partir des Antilles, il pousse encore plus loin et il décide d'arriver jusqu'aux Marquises en plusieurs mois.
Comment il est accueilli là-bas?
Alors au début il est accueilli de manière très simple parce que les gens ne le connaissent pas et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'il a choisi les Marquises. Il ne voulait pas du tout y être connu comme chanteur et pour vous dire à quel point il ne voulait pas être reconnu, un jour Éric Tabarly arrive aux Marquises et veut voir Jacques Brel et Jacques Brel est d'accord, sauf qu'il découvre que Éric Tabarly est accompagné de beaucoup de journalistes et là Jacques Brel monte dans son 4x4 et s'enfuit dans une vallée et ils ne se sont pas vus.
Les Polynésiens appelaient Brel le vieux.
Oui, pourtant il n'était pas si vieux pour nous, hein, puisqu'il est mort, il n'avait pas 50 ans.
Mais ça veut dire quoi le vieux en Polynésie?
C'est une marque de respect très profonde pour les ancêtres, puisque l'ancêtre joue un rôle très important. Et effectivement, là-bas, il est une figure incroyable, beaucoup plus que Gauguin, qui n'est pas, peut-être on en parlera, mais qui n'est pas très aimé des Polynésiens. Brel, lui, en fait, a vécu de manière un peu folle. Il avait un avion, puisqu'il avait aussi passé un brevet de pilote. Il faut savoir qu'à l'époque où il était aux Marquises, il n'y avait ni téléphone, ni route. Donc il y avait un bateau qui amenait des vivres tous les 15 jours. Et Brel prêtait son avion, son bimoteur, enfin il le prêtait, il le pilotait, pour amener les enfants malades à l'hôpital, pour aller à Tahiti chercher le courrier, pour avoir le courrier toutes les semaines au lieu de tous les mois. Et donc il est devenu un héros, parce que même lui qui était mécréant comme Gauguin accueillait les sœurs. Le catholicisme a joué un rôle très important au XXe siècle dans ces îles, et il les invitait à déjeuner. Il était très très aimé, mais pas connu comme chanteur.
Il va revenir en France pour se faire soigner et écrire ses dernières chansons aussi sur les Marquises, c'est ça ?
Ses chansons, il les a écrites en partie là-bas. Alors effectivement, ouais. Il n'avait pas chanté depuis longtemps, hein, ça c'est très important, même s'il chantait beaucoup pour lui, mais apparemment il chantait des airs d'opéra aux Marquises dans son jardin.
On rêverait d'être une petite souris dans son jardin.
Ben, on rêverait vraiment d'être une petite souris, parce que sa compagne a écrit un livre. Il recevait aussi en smoking, alors qu'il était dans une île où il n'y avait personne, il recevait en smoking blanc pour dîner. Et donc effectivement, il est revenu enregistrer en France en Belgique ses dernières chansons. Il est revenu se faire soigner aussi en France. Il est mort en 78, mais il voulait absolument être enterré aux Marquises. Et donc, il a été enterré là-bas, et toute l'île était... il y a plusieurs îles, mais l'île de Ivaoa, où il vivait, était totalement recueillie. Encore aujourd'hui, on parle beaucoup de Brel là-bas, mais plus comme une sorte d'ange, de dieu, mais au sens de présence, plus que comme chanteur, même si ce dernier album est un hommage aux Marquises.
Donc on peut dire que Jacques Brel a vraiment exploré cette possibilité d'une île, il y a même vécu. La possibilité d'une île, c'est un roman de Michel Houellebecq, il est né sur une île.
Oui, alors... C'est étonnant. On peut pas dire que c'est un clin d'œil, c'est pas très important dans son œuvre, mais effectivement, il est né à La Réunion, où ses parents étaient à l'époque. Et on sait quand même que dans l'œuvre de Houellebecq, il y a une sorte de cassure après l'enfance. Et on peut imaginer, même s'il l'a pas utilisé de manière directement autobiographique, et on retrouve ça d'ailleurs dans beaucoup des écrivains et des artistes auxquels je me suis intéressé. Gauguin a vécu ses premières années au Pérou, c'est pas très connu. Souvent, quand on a vécu petit enfant dans un endroit paradisiaque, il y a quelque chose qui reste.
D'une quête perpétuelle. Si vous parlez de Michel Houellebecq dans votre article du Parisien Magazine, c'est parce qu'il a choisi une île pour échapper un peu au monde quelques mois, quelques années.
Quelques années, oui, il est parti en Irlande au début des années 2000, donc il voulait vraiment s'isoler. Il en a peu parlé dans son œuvre, à part dans La carte et le territoire, qui lui a valu le prix Goncourt. Alors, il en parle d'une manière qui est vraiment radicalement différente. Chez Brel, il y a une joie, une explosivité. Houellebecq, c'est une tristesse. Lui, ce qu'il adore en Irlande, c'est qu'il fait nuit très tôt, c'est qu'il n'y a personne. C'est qu'on vient pas l'embêter.
La possibilité de la solitude, peut-être.
Oui, et c'est pas qu'une possibilité. Alors, c'est devenu après une impossibilité, parce qu'il a quand même fui.
Dans un instant, d'autres Iliens, deux écrivains, un Français, Victor Hugo, et une Suédoise actuelle, Camilla Läckberg. À tout de suite, les curieux.
Vous écoutez RTL.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Ce serait pas le générique de l'île de la tentation.
Après la possibilité de l'île, la tentation du Nil.
On est passé de Michel Houellebecq à l'île de la tentation. On ose tout dans la curiosité, les îles qui fascinent les artistes, les chanteurs, les écrivains voyageurs et même les écrivains de polar. C'est ce que l'on va découvrir tout de suite grâce à Yves Jéglet dans votre article du Parisien Magazine qui est en partenariat avec RTL. Je rappelle que vous travaillez pour le Parisien. On va parler de la romancière suédoise Camilla Läckberg. C'est clairement l'une des auteurs de polar les plus lus en Europe et dans le monde. Alors, c'est quoi ? C'est pas l'île, c'est pas l'endroit où elle vit, mais c'est le décor de ses romans, c'est ça ?
Oui, alors déjà, vous avez eu un flair incroyable pour votre musique, parce qu'en fait, elle est dingue de télé-réalité. Elle s'en sert dans ses romans. Donc, vous voyez, c'était très
parfait.
Bien.
Très bonne
bien,
transition. Très bien, André Facetta, notre réalisateur, il est trop fort.
Alors, en fait, elle a grandi dans un petit port de pêche, à l'ouest de la Suède, qui est devenue une station balnéaire et qui est juste en face d'un archipel d'îles. Et donc elle raconte qu'enfant, elle s'intéressait pas, ses copines lisaient des livres sur les chevaux et elle lisait déjà des histoires de fantômes, des histoires d'horreur. Elle a toujours été fascinée par ces îles, dont une, je vous ai pas épargné la prononciation scandinave,
mais
c'est Graskar, mais c'est l'île des esprits, l'île des morts. Et elle est fascinée aussi par la famille, au sens de ce qui peut se passer de terrible dans une famille. Parce que dans les îles de ces polars...
C'est des huis clos, finalement.
C'est des huis clos. Ouais. Si vous tuez quelqu'un... Alors, elle s'est beaucoup intéressée aux statistiques. 9 meurtres sur 10 sont commis par des proches, dit-elle. Donc souvent quelqu'un de la famille ou un voisin ou une voisine. Puis quand il y a des forêts enneigées, quand il y a une île qui fait froid, eh bien, la police n'est pas là tout de suite.
Et donc, ces îles font tellement le succès de sa série de polars que cette poète romancière suédoise Camilla Läckberg a même décidé d'y organiser un tour, ce qu'on appelle un tour.
C'est
pour
ça.
Les fans. C'est quoi?
C'est un peu comme Sex and the City, une époque
à New York,
où vous preniez un bus. Donc c'est une auteure assez américaine dans l'esprit, c'est-à-dire elle a un petit côté businesswoman. Ça marche très très bien. Et effectivement, elle a conçu une sorte de voyage organisé où vous allez puisqu'elle a une série, je crois, de au moins 7 romans avec un personnage récurrent qui s'appelle Erika, qui est une héroïne. D'ailleurs, sur France 3, on a pu voir une série télévisée.
Ouais, les enquêtes d'Erika Flack.
Voilà, qui en a été adapté. Et effectivement, vous pouvez vous balader de décor en décor. Alors là c'est il y aura une affaire de pédophilie. Dans l'autre île, il y aura quelqu'un qui aura
tué
sa femme.
C'est pas elle qui fait le tour, faut pas rêver.
Non.
Non, d'accord.
Autre époque, autre île, on dit adieu aux filles de Sex and the City qui étaient avec nous là en fond sonore pendant quelques secondes. On va voyager dans l'espace et dans le temps avec Victor Hugo. Les îles anglo-normandes, pourquoi? Rappelez-nous, pourquoi il se réfugie dans ces îles anglo-normandes, Yves Jéglé?
Victor Hugo, donc, il était très engagé politiquement et en 1851, donc Louis-Napoléon Bonaparte, enfin futur Napoléon III, prend le pouvoir. Et Victor Hugo a fait un discours à la Chambre, discours sur la misère. D'ailleurs, c'est intéressant dans votre émission, et puis je le savais pas, mais il parle des marquises dans ce discours, qui venaient d'être annexées par la France, et on en parlait comme un lieu possible de déportation, puisque l'île peut être aussi prison. Et donc, il se moque de Napoléon le Petit, et sa tête est un peu mise à prix, wanted, il y a une capture, il est recherché, et donc il s'enfuit, il va d'abord en Belgique, mais il peut pas rester en Belgique, et donc il part dans les îles anglo-normandes.
Il commence par Jersey. Il s'établit un peu.
Plus qu'un petit peu, parce qu'en tout, il sera resté presque 20 ans, donc il reste quelques années à Jersey. Alors là, il découvre le spiritisme. Ouais. Victor Hugo, le problème qu'on a, nous, en France, c'est qu'on l'a souvent lu à l'école, donc on en a une image très scolaire. Alors que c'est vraiment un écrivain fantastique, à tous les sens du terme d'ailleurs. Il est intéressé par des choses très différentes, par un romanesque noir, et il faisait tourner les tables. Il avait un côté surréaliste avant l'heure, quoi, très très moderne. Il habitait d'ailleurs à côté d'un cimetière, entre une falaise et un cimetière.
Et puis ensuite, il va s'installer à Guernesey, dans une maison, la maison d'un ancien corsaire. Qu'est-ce qu'il aime sur cette île? Qu'est-ce qui lui plaît?
D'abord, il y a une sorte de miracle pour lui dans cette maison, qui est une maison incroyable, hein, qu'on peut visiter, qui est immense. Il écrivait au dernier étage, il voyait la mer.
Oui, il écrivait debout, c'est ça,
face à la mer.
On imagine la grandiloquence et l'inspiration.
C'est un petit peu le Gueuloir de Flaubert avant l'heure. Et puis, il était décorateur, Victor Hugo. C'est quelqu'un, il était tout à la fois. Il avait transformé des coffres en buffets. Faut savoir qu'il était venu avec sa femme et sa maîtresse, pas dans la même maison quand même, hein, mais qui suivait un peu plus loin. Ses enfants, bien entendu. Donc, il n'était pas trop seul sur cette île. Et puis, il a aimé, c'est un petit peu le symbole du romantisme, c'est-à-dire il aime les falaises. Je crois qu'il a des expressions très belles où il dit c'est comme un côté un petit peu, c'est le chaos du monde comme ça qui s'inscrit dans les îles, les falaises découpées, la sauvagerie.
Il y a aussi arbres, roseaux, rochers, tout vit ici, tout est plein d'âme.
Voilà, il était extrêmement sensible à la mer, aux vagues, et surtout, ça lui a permis de nourrir cette sensation d'exil qu'il avait, puisqu'il était quand même chassé de... C'est un petit peu comme Chateaubriand, hein. C'est pas ses mémoires d'outre-tombe, mais c'est ses mémoires d'outre-terre, il est très très loin.
Qu'est-ce qu'il a écrit, Victor Hugo?
Il a écrit beaucoup, alors,
à cette époque.
Il a écrit un livre qui est consacré un petit peu à cet univers, qui est Les Travailleurs de la mer, qui est l'histoire d'un pêcheur qui tombe amoureux, mais il a quand même fini les Misérables, il a écrit Les Contemplations, Les Châtiments, il est resté très longtemps, finalement c'est entre 48 et 68 ans à peu près qu'il vit dans ces îles. Donc en tant qu'homme, c'est ces années les plus fécondes. Et il voulait même pas rentrer en France, hein, parce que à un moment il y a une amnistie. Et il a dit non, je me souviens plus l'expression exacte, mais il a dit quand la liberté rentrera, je rentrerai. Donc il a attendu la chute de Napoléon III.
Encore une belle formule signée Victor Hugo. On continue de voyager d'une île à l'autre. Allez, tiens, on vous embarque direction Hawaï. Et Rodriguez, à tout de suite, les curieux.
Vous écoutez RTL.
Quand je reste dans une ville qui est trop sèche, trop loin de l'eau, je me sens pas très à l'aise. J'ai besoin que, justement, que mon œil se perde.
La curiosité est un vilain défaut.
La mer ou les fleuves sont des lieux où le regard ne s'arrête pas. On peut s'en aller.
Jusqu'à 22h.
J'ai un passeport mauricien et sur mon passeport mauricien, c'est écrit JMG Le Clésios. On ne met pas le prénom, mais les initiales.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Comme l'écrivain Jean-Marie Gustave Leclésio, ils ont grandi sur une île où tout quitter pour elle. On vous raconte les liens de cœur de grands artistes avec leur bout de terre, en compagnie d'Yves Jéglé, chef adjoint du service culture au Parisien, qui consacre un bel article dans le Parisien magazine. On part avec vous, allez, avec l'aventurier et écrivain Jack London. Il débarque à Hawaï au tout début du XXe siècle. Et cette île, à ce moment-là, elle n'est pas encore américaine. Qu'est-ce qu'il découvre à Hawaï ?
Découvre le surf d'abord, puisqu'il y a les premiers surfeurs. Il découvre des choses moins...
Il a surfé, Jack London ?
Il a surfé, oui, oui. Ah ouais. Il a tout fait, Jack London. Il a tout fait. Il a chassé le phoque, il a été militant socialiste, il a été agriculteur. C'est quelqu'un de formidable. Et il est mort à 40 ans, donc il a tout fait en très peu de temps. Et il découvre aussi des choses plus dures. Il découvre la lèpre. Il y a une des îles, enfin, à côté qui servait de léproserie. Donc il a été, comme beaucoup d'ailleurs d'écrivains, et même Gauguin auquel je me suis intéressé, souvent ils sont du côté des indigènes contre les blancs, puisque l'Amérique n'a pas encore colonisé Hawaï. Mais déjà, il y a des maladies qui ont été transmises par les navigateurs. Il y a un pouvoir blanc, et lui est vraiment du côté des Hawaïens.
C'est ce qu'il raconte dans Histoire des îles, qu'il publie en 1919, Jack London.
Oui, il a beaucoup écrit là-dessus. Alors il y a les contes des mers du sud notamment, puis l'histoire des îles, et puis il a écrit sur son bateau, puisqu'il s'est fait construire un bateau, le Snark, où il devait partir pendant 7 ans à travers les mers du Pacifique. Finalement, il est parti qu'un an et demi, puisque Jack London, il changeait souvent d'avis, il vivait trop fort. Il est mort d'ailleurs sans
vivre doute. Fort, c'est
vivre joli, fort, oui, ouais. Oui, lui il vivait très très fort, tellement fort qu'il est mort beaucoup trop jeune. Mais effectivement, il cherchait des paradis, il cherchait des univers. Il faut savoir qu'adolescent, déjà, il vivait comme un vagabond, ce qu'on appelle les hobos aux États-Unis. Mm-hmm. Donc il est né en Californie. Alors il a commencé par des toutes petites errances, des petits voyages en sautant dans un train. C'était Kerouac avant l'heure, et puis après il a pris son bateau.
Et vous le disiez, il meurt très jeune, 40 ans, il revient à Hawaï juste avant de mourir.
Oui, alors c'est ce qui,
mourir.
C'est
une mort presque prémonitoire. Pourquoi est-ce que vous écrivez dans votre article du Parisien Magazine?
Ce qui m'a fasciné, c'est que donc il était allé à Hawaï beaucoup plus tôt. Alors Hawaï n'est pas très loin finalement de son lieu de naissance, puisqu'il est californien, enfin, c'est pas pour lui. Et effectivement, peu avant de mourir, il revient là-bas, alors que, voilà, en théorie, il n'a plus vraiment de raison. Je pense que pour lui, il y avait une fascination de... Pour les Américains, Hawaï, c'est la première île océanienne, c'est la première île. Alors, il n'y avait plus vraiment de Maori, mais c'est quand même le début de cette histoire extraordinaire qu'ont connu aussi Melville et même Gauguin. Et Hawaï, c'est la première étape, puisque c'est ce que dit très bien Leclésio dont on va parler après. L'Océanie, c'est que des îles.
Mais pourquoi c'est prémonitoire? Parce qu'il l'avait écrit dans un de ses premier roman,
oui,
c'est
pardon,
ça.
C'est dans Martin Eden qui est un petit peu son chef-d'œuvre. Son personnage meurt au même âge, se suicide. Alors il y a un mystère sur la mort de Jack London. Il est mort d'une surdose, mais bon, il s'est probablement suicidé, puis buvait beaucoup, mais il vivait vraiment trop fort.
Alors cet appel de Lille, l'écrivain Jean-Marie Gustave Leclésio, prix Nobel de littérature en 2008, l'a ressenti aussi, et c'est lié à une histoire de famille, une grande histoire.
Oui, une grande histoire dont il a réussi à faire plusieurs romans magnifiques. Donc il est né à Nice, au bord de l'eau, comme il disait dans l'extrait que vous avez diffusé. Et c'est seulement vers la trentaine qu'il a décidé de retourner vers ses racines, donc à l'île Maurice, où ses arrière-grands-parents, enfin en tout cas longtemps avant, il venait d'une famille bretonne qui avait émigré à Maurice, qui brièvement était français puis anglais. Et il y a une histoire extraordinaire avec son grand-père, qui a été chassé de ses terres. Il y a eu un conflit familial et son grand-père est devenu chercheur d'or. Et donc il y a un roman qui s'appelle Le chercheur d'or, mais il a réellement cherché un trésor.
Sur cette île dont je parlais tout à l'heure, Rodriguez, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Donc il a quitté Maurice, c'est une île qui est à côté, une île beaucoup plus dure, où elle est beaucoup moins touristique. Et on lui avait dit qu'il y avait un trésor d'un corsaire. Il a cherché pendant 30 ans
c'est
ce trésor.
C'est quoi, le trésor d'un corsaire ?
Le trésor d'un corsaire. C'est vraiment l'île au trésor. Et il n'a jamais trouvé ce trésor. Donc il y a une forme d'amertume, mais il s'est trouvé lui-même. Quand on lit Leclésio, c'est vraiment une quête intérieure très très forte. C'est le voyage qui compte.
Et il raconte qu'il se sent proche de ses habitants, de cette île, de Rodriguez.
Oui, parce que ça fait penser d'ailleurs un petit peu aux Marquises. C'est une île où il y a des montagnes. C'est pas une île où on va pour se baigner. C'est pas une île où on va pour se reposer. Les gens travaillent. Ils sont pêcheurs, ils sont chasseurs. Comme aux Marquises d'ailleurs, où les artistes sont aussi pêcheurs, agriculteurs. Et effectivement, il se sent très très proche de ce qu'il appelle une forme de férocité pour survivre.
Et il s'en proche aussi et il apprécie une forme de lenteur qui lui fait penser, il dit, à l'éternité, l'infini. C'est un endroit où rien ne se termine, c'est ça, Rodrigue ?
Lui, c'est vraiment un chercheur d'absolu, Leclésio. Donc effectivement, il cherche une autre temporalité, un rapport beaucoup plus fort aux éléments, puisque c'est des îles où il y a aussi des ouragans, où il y a un rapport au cosmos qui est beaucoup plus immédiat.
Merci infiniment, Yves Jéglé. Ces îles sont à découvrir sous votre plume dans le Parisien Magazine apparaître demain. Et puis je voulais dire que vous faites un texte en introduction qui est absolument magnifique. Vous avez une très jolie plume.
C'est très gentil.
On comprend vraiment ce lien envoûtant entre les hommes et leurs îles. Ça vaut le coup.
Merci beaucoup.
Yves Jéglion.
Vous écoutez RTL.